parler un peu de l'avenir à court terme, mais aussi à très long terme, voire dans l'éternité.
Vous aimez beaucoup. Ah ben, vous savez, ça risque d'être long, hein, donc on prendra du temps. Il paraît que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. On parlera, j'essaierai d'évoquer aussi des idées qui tournent autour du salut, de notre espérance, et donc de cela en rapport avec l'écologie. Alors, je suis pasteur, c'est vrai, comme ça a été dit, un tout petit peu théologien, et pas du tout spécialiste de l'écologie. Donc il y aura peut-être parmi vous des personnes qui vont être étonnées de ce que je dis ou qui auront des questions à la fin très précises auxquelles je ne pourrai pas répondre. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous expliquer les raisons qui m'ont conduit à vous parler de ce que je vous parle, mais je n'aurai peut-être pas les réponses à toutes vos questions. J'ai essayé d'avancer autour de ces thèmes de l'avenir au niveau de l'éternité, de questions qui tournent autour de l'espérance et du salut. Et j'ai enquêté en creusant certains textes que l'on verra tout à l'heure, donc un peu comme Sherlock Holmes, là, qui pousse sa terre, j'ai regardé, et là, je vous ai mis simplement une autre formulation qui aurait pu être vraie aussi pour cet exposé que je vous propose aujourd'hui. L'écologie, en parlant tout à l'heure avec Jean-Marc, avec l'organisateur de cet après-midi, de cette semaine, elle est partout présente. À chaque fois que vous ouvrez, si vous ouvrez Internet, moi ça m'arrive de temps en temps d'ouvrir Internet, vous ouvrez les médias, il y a toujours une question d'écologie. On a l'impression que quoi qu'on fasse maintenant, il y a toujours un arrière-plan qui nous ramène à une question écologique. J'ai vu il y a peu de temps que cette question, enfin, en y réfléchissant, en étant en train de réfléchir à cette présentation, je me suis dit, mais est-ce que cette question, elle est de l'ordre de la mode ou de la nécessité? C'est sous cet angle-là que je me suis posé la question, parce qu'elle est présente. Et même au niveau des politiques, parfois, on se demande s'ils sont vraiment concernés par l'écologie ou c'est simplement parce que ce sont des questions où on peut récupérer des voix électorales. On se pose la question, j'ai pas dit que c'était vrai, hein, je pose la question. Et j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, hein, il y a quelques temps aux infos, que à cause du réchauffement climatique et de la fonte de certaines neiges, notamment en Sibérie, il y a certains virus qui réapparaissent alors qu'ils étaient pris dans les glaces de Sibérie depuis 30 000 ans. Ceci est une conséquence du réchauffement climatique. Donc on s'interroge au niveau médical sur le réchauffement climatique. Il n'y a pas très longtemps de cela, on nous a encore la pointe de l'actualité, alors qu'il y a des guerres, des drames partout dans le monde. Le premier chapitre de l'actualité, c'était la pollution à Paris, le fait que l'on roule à 50%, à croire que tout est lié à l'écologie, ou est lié à une question d'écologie, de la préservation de la Terre. Est-ce que c'est une mode ? Ou est-ce que c'est une nécessité? Comment, moi, en tant que croyant, en tant que chrétien, je considère cette question? Est-ce qu'elle est un effet de mode? Ou est-ce que, en tant que chrétien, dans ma lecture biblique, je l'aborde comme une question nécessaire? Peut-être avez-vous déjà, je ne sais pas quels sont les thèmes que vous avez vus durant les jours qui ont précédé, ceux qui restent encore à voir. Dieu nous a confié la mission de garder la terre. Genèse chapitre 1er verset 28. Je n'imagine pas que vous ne l'ayez pas vu. Vous l'avez vu ce verset. Donc je ne l'ai pas repris, mais je le dis quand même. Donc on est là presque sur la question de la nécessité. Ce n'est pas une mode. Même si certains y travaillent bien. Le fait que l'homme soit le gardien de la terre, le gestionnaire de la terre qui lui a été confié, nous met déjà sur une voie qui est quelque part incontournable. La gestion sage de la terre, c'est la mission que Dieu nous a confiée. En bon intendant, Dieu nous a confié la création pour que nous puissions la gérer. Et on se trouve là dans le registre de l'ordre créationnel. C'est un ordre qui nous est donné de la part du Créateur, mais c'est quelque chose qui est ordonné, qui a qu'il y a une structure. Les choses sont faites dans l'ordre. Vous voyez les deux notions du mot ordre. C'est un ordre qui est donné de la part du Créateur, mais les choses sont faites dans l'ordre pour qu'elles restent dans un certain ordre. Et on est là dans l'ordre créationnel. Ce n'est pas une mode, ça ne semble pas être une option du point de vue de Dieu que de s'occuper de la terre. Par contre, pourquoi en parle-t-on autant maintenant, alors qu'il y a 2-3 décennies de cela, l'écologie ne crevait pas l'écran comme ça le fait de nos jours? C'est une des questions que je me suis posée, et je me suis demandé si ça venait du fait que l'homme a tendance à s'éloigner du Créateur. Ça existe depuis la Genèse, depuis Adam et Ève. On a tendance à se boucher les oreilles et à ne pas écouter les ordres de Dieu, les commandements, ni ce qu'il nous conseille de faire pour que l'ordre soit préservé. On connaît le problème au niveau spirituel, on appelle ça avec ce gros mot qu'on appelle le péché. Ne pas écouter Dieu, c'est le péché. Ça s'appelle comme ça. Des fois ça choque, ça agresse les oreilles, mais les choses sont dites. Ces choix-là, les choix des hommes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Créateur, ont des répercussions dans le domaine spirituel. En ont-elles aussi dans le domaine matériel et au niveau de cette question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la question de l'écologie, de la préservation de la terre, de la gestion du don que Dieu nous a fait. Qu'est-ce qui fait que le chrétien, là pour la majeure partie d'entre nous, je pense, nous sommes des croyants, croyants en Dieu, qu'est-ce qui fait que le croyant pourrait avoir un regard différent sur la question écologique au regard de sa foi et de son espérance? Est-ce que, en tant que croyant, on a un regard sur l'écologie qui peut être différent de n'importe quelle personne qui fait de l'écologie? Qu'est-ce qui nous différencie de ces personnes? C'est notre espérance, donc on revient à la question de l'éternité, et de la foi qui m'habite aujourd'hui. Quelle place a Dieu dans ma vie? Quelle relation, quel impact, quelle conséquence le fait que j'ai une relation avec le Créateur, quel impact cela a-t-il sur la question écologique? Un premier point qui peut nous mettre sur la piste, c'est que l'éloignement de Dieu, ce que l'on a appelé le péché, nous amène souvent à avoir une vision égoïste du monde. L'absence de foi, l'absence de contact avec le Créateur peut amener à une mauvaise gestion du monde, de la vie, de mes relations, de ce que Dieu me confie. Si j'ai une mauvaise relation avec le Créateur, ce qu'il m'a confié se trouve déréglé, entaché. Ça existe dans les questions relationnelles, et ça peut exister aussi dans les questions matérielles. Les aberrations écologiques que l'on voit aujourd'hui ne sont-elles pas pour beaucoup dues à un égoïsme humain, à des questions économiques, à une prétention à tirer la couverture de son côté? Faudrait-il renier sur son confort personnel pour le bien de la communauté, pour le bien de l'écologie? Est-ce que, justement, je suis en phase avec ce que Dieu me demande? Et est-ce que, si oui, est-ce que le fait qu'il y ait un déphasage avec ce que Dieu me demande, est-ce que ça a un impact, justement, sur les questions écologiques? Quelque part, on se rend compte que ma relation à Dieu a un impact sur la gestion du monde. Il y a bien des écologistes, me direz-vous, qui ne sont pas chrétiens et qui ont des bons sentiments, comme dans beaucoup de questions qui sont autres que les questions écologiques. Je me demande, pour un bon nombre de ces personnes qui ne sont pas croyants, mais qui ont des fortes aspirations écologiques, si quelque part la terre n'est pas leur Dieu. On a tous besoin d'un Dieu. Et la question écologique devient le centre de leur vie. Quel est le centre de ma vie? Pourquoi est-ce que je donne tout? Pourquoi? Pour quelle raison? Quelle est la motivation qui prend toute mon énergie? Est-ce que c'est Dieu qui est le centre de ma vie ou est-ce que c'est autre chose? il y a des tas de personnes qui se concentrent, qui ont un centre, qui mettent leur vie, toute leur énergie sur quelque chose, et pour certains, c'est l'écologie. Ça peut être de bonnes choses, n'empêche qu'ils ne sont pas en relation avec le Créateur. Le font-ils pour de bonnes raisons? Je vous laisse réfléchir sur cette question. J'aimerais maintenant, après cette longue introduction, continuer en utilisant un texte dans l'Épître aux Romains que nous allons lire bientôt. Et c'est sur ce texte-là que je m'arrêterai plus longtemps pour vous taquiner sur la question de l'éternité, sur la question peut-être de la fin du monde et sur la question de comment notre terre va-t-elle évoluer sur le très 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 long terme. J'ai dit vous taquiner parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. La question a le droit de ne pas vous intéresser. Mais en fait, en relisant ce texte, je me suis rendu compte, vous avez très certainement déjà lu la Bible, et vous dites, tiens, ce texte-là, je ne l'ai jamais écouté, entendu de cette manière-là. Je le connais par cœur, et pourtant, aujourd'hui, il me parle d'une manière très différente. Et dans ce texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, alors l'Épître aux Romains, elle parle franchement presque exclusivement du salut. Et on se dit, mais pourquoi il a trouvé un texte sur l'écologie dans une épître qui parle presque exclusivement du salut, de la grâce en Jésus-Christ? Parce que je crois que notre salut, notre espérance, nous amène à avoir, par rapport à ce texte, une vision différente par rapport à la terre et à son avenir éternel. J'ai un regard différent sur l'écologie parce que je suis habité de Dieu, que je comprends que c'est la mission qu'il m'a confiée et que cette mission, elle a une visée éternelle. Pourquoi le chrétien peut-il avoir un regard différent? À cause de son salut et de son espérance éternelle. Le texte que je vous propose dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, se situe là, entre les versets 19 à 23, je l'ai écrit là, je le lis avec vous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Donc vous voyez les questions de la création ici. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, il lui a toutefois donné une espérance. Donc ça c'est l'autre mot que j'ai soulevé tout à l'heure. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qu'il a servi pour accéder à la liberté des enfants de Dieu, à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, et nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif, de Dieu, quand notre corps sera délivré. Ce n'est peut-être pas, ce que je vais dire là, n'est peut-être pas une généralité dans tous les milieux d'église. En tout cas, la question de la fin du temps interpelle certains. Pour ceux qui y pensent, parfois quand on est jeune, en tant que pasteur, pas trop loin de certains jeunes encore, il y en a qui me posent la question, qui essayent de lire l'Apocalypse, qui essayent de comprendre la fin des temps, qui lisent des bouquins, qui disent des fois n'importe quoi. Et cette question préoccupe certains. On parle de royaume de Dieu. Et certains imaginent que la fin du monde pourrait se passer dans un cataclysme total, la terre qui s'embrase, le soleil qui s'obscurcit. Ce sont des textes bibliques qui disent que le soleil s'obscurcira, que la lune perdra son éclat, que les étoiles tomberont. Et on imagine un cataclysme foudroyant, pour certains, pour ceux qui y pensent. On a l'impression là qu'il y a une sorte de discontinuité entre la terre d'aujourd'hui et le monde de demain. L'épître de Pierre souligne ces cataclysmes. Le monde futur sera totalement différent du monde d'aujourd'hui. Le jugement que Dieu bon Dieu, enfin que Dieu utilisera pour juger le monde sera, semble-t-il, foudroyant. Et Pierre utilise les images, les exemples de Noé, du déluge, et de Sodome et Gomorre qui étaient frappés par le feu pour parler de cela. D'autres n'imaginent pas la fin du monde et espèrent que petit à petit, tant bien que mal, le monde va s'améliorer à force de la bonté, de la bonne intelligence des gens, et qu'on arrivera à quelque chose qui pourrait ressembler à un royaume de paix. J'ouvre une petite parenthèse. Il y avait au 1er siècle une tendance philosophique qui s'appelait le gnosticisme. La gnose, ça veut dire la connaissance. Les gens qui se ralliaient à cette tendance philosophique mettaient l'accent sur tout ce qui est spirituel. On retrouve ça dans la première épître de Jean, et aussi un peu dans l'épître aux Colossiens. Cette philosophie soutenait donc que l'esprit était supérieur à la matière, au corps. Il s'ensuivait, pour les tenants de cette pensée, deux orientations qui, assez bizarrement, étaient complètement opposées. Les uns avaient des comportements complètement débridés, car de toute façon, le corps, la matière, était secondaire, ce qui était important, c'était l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire ? La connaissance, l'esprit et le spirituel étant supérieurs, on pouvait faire n'importe quoi avec la terre et le corps, de toute façon on s'en fiche. Et à l'extrême opposé, les gens qui étaient des gnostiques mais d'une tendance différente, soutenaient que, à cause de cette supériorité de l'esprit, il fallait absolument maîtriser le corps, la matière, il fallait avoir une emprise forte, il fallait pouvoir la dompter, la maîtriser. Et ils en arrivaient à un asservissement de la matière et du corps qui était extrêmement légaliste. Je vois dans ces deux extrêmes des choses qui se rapprochent de l'écologie. Pour certains, la Terre va tellement être dissolue, rasée, avec des cataclysmes et des choses comme ça, à quoi bon se casser la tête à faire de l'écologie alors que ça tout va être rasé? À quoi bon se casser la tête? De toute façon, Dieu va faire un grand coup de balai, le déluge plus Sodome multiplié à la puissance N plus 1, et la Terre sera renouvelée, toute belle. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui prennent du temps parce qu'ils sont persuadés qu'à force de leurs efforts, ils pourront changer la Terre. J'entrevois dans ce texte de Romains 8 une voie intermédiaire, une sorte de voie moyenne. Qu'il y ait une fracture, certes, que le mal et le péché soient éradiqués, certes. Qu'il y ait un bouleversement fondamental, comme dans nos vies, comme quand Dieu intervient dans nos vies, certes. Pour autant, je crois qu'il y a aussi une continuité entre le monde actuel et le royaume de Dieu. Un royaume où tout serait restauré comme à l'origine. À l'origine, Dieu avait qualifié sa création de bonne. Il l'avait voulu belle et bonne. La création soupire, nous est-il dit. Elle gémit. Elle gémit avec un ardent désir. On a là sur la création une sorte d'anthropomorphisme. Comme si la terre était humanisée. On la sent comme un être humain qui respire, qui souffre, qui gémit, qui attend avec un ardent désir. Et elle est comme nous. Nous aussi, nous gémissons. Ça ressemble à ce que nous vivons nous-mêmes. Elle est dans l'attente de quelque chose qui va être révélé. La terre est mise en parallèle avec l'être humain, et l'être humain peut être mis en parallèle avec Jésus. S'il demeure impossible de répondre précisément à cette question, comment sera l'éternité? De quoi sera fait notre avenir? En tout cas, on a des pistes. On a des pistes avec Jésus qui, après la Pâque, et ça arrive dans pas très longtemps, est ressuscité. À la croix, le jugement de Dieu est tombé. Il y a eu un jugement. Tout à l'heure, je parlais du jugement de Dieu et de faits cataclysmiques. À la croix, le soleil s'est obscurci. La nuit est arrivée en plein jour. Le jugement de Dieu a commencé à tomber. La fin du monde a commencé à la croix. C'est ce que je crois. Jésus est passé par la mort. La vie a été anéantie. Des fois, au niveau de l'écologie, on dit que la vie est anéantie. La vie de Jésus a été anéantie. Au matin de Pâques, Jésus est ressuscité. C'était le commencement des temps de la fin. Jésus est revenu. Jésus est revenu dans un corps qui était à la fois le même et différent. Il y a une rupture, une discontinuité, et il y a aussi une continuité. Comment cela se fait-il? Comment Jésus est-il revenu de la mort à la vie? Et dans quel corps est-il revenu? J'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Ce que la Bible me dit, en tout cas, c'est que parfois il était là, et parfois il était ailleurs, sans passer par la porte. Il se rendait présent sans passer par la porte. Et pourtant, quand Thomas a douté, il lui a montré les traces dans ses mains. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Ce que Jésus a vécu avant se voyait encore après. C'est étrange. Certains l'ont vu, l'ont touché. Les disciples d'Emmaüs ont discuté avec lui sans le reconnaître. C'est comme s'il avait un corps un peu différent. Et puis parfois, hop, il se représente, on dit c'est lui. Il y a quand même une continuité. Comment ça se fait? Ça me dépasse. On est dans le divin, on touche à quelque chose qui est trop grand pour ma faible capacité de réflexion. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que tout en ayant rupture, il y a continuité. Ce que je fais avant a un impact dans l'après. Les marques de Jésus se voient encore après. Est-ce que tout cela serait un signe pour nous dire d'une manière ou d'une autre qu'il y a un passage d'un état à un autre avec la conservation de certains éléments? La résurrection, nous est-il dit, aura lieu dans un corps incorruptible, insensible au mal, régénéré, immortel. Philippiens chapitre 3, verset 21 nous dit « Il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. » C'est de nous qui parle. « Il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. » Un peu déjà ce qu'il avait vécu. Cela par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Corinthiens chapitre 2, verset 3 nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Que ça commence déjà maintenant. Paul, encore lui, dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, parlant de la résurrection, parle de la transformation du grain de blé, qui n'a rien à voir entre la graine que l'on plante en terre et l'épi qui sort. Pourtant, c'est la même chose. Il y a transformation, mais il y a en même temps continuité. On garde une identité. Bien qu'étant transformé, il y a une certaine continuité. La création garderait-elle des traces pour plus tard de ce que nous lui faisons aujourd'hui? Je crois que le salut apporté par Jésus-Christ nous régénère. Il change notre vie à l'intérieur. Il nous transforme. Il change notre perception des choses. Faut que j'arrête bientôt? Nous parlons bien là de toute la création. La restauration de la création, elle est due à ce que Jésus a fait. Au verset 20. il donne une espérance. Nous avons l'espérance d'une vie autre. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. J'essaie de sabrer un peu dans la masse et je vais aller un peu plus loin. Est-ce que cette espérance-là est suffisamment forte pour me motiver à avoir une réflexion écologique? Est-ce que la transformation que Jésus a faite dans ma vie est-elle le moteur d'une action écologique? Est-ce que c'est Dieu qui motive ça, ou est-ce que c'est simplement les conditions du monde et parce que c'est une question à la mode? Ça, c'est la question que je pose. Tout à l'heure, j'évoquais l'idée que parfois, on lit la Bible et on ne se rend pas compte qu'il peut y avoir... Enfin, on peut la lire à différents degrés. Et voilà, ça c'était la question entre rupture et continuité. Ce texte-là m'interpelle. C'est l'un des plus connus de la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous savez qu'on parle d'écologie dans ce texte-là? Parce que mon prochain, pas seulement celui qui est là aujourd'hui à côté de moi, mais celui qui vivra dans 10, 15, 20, 30 ans, c'est aussi mon prochain. Et que la façon de l'aimer et de prendre soin de lui, c'est aussi de lui léguer une terre où il puisse se réjouir, dont il puisse jouir aussi. Quelque part, on peut voir dans des textes comme celui-là aussi, quelque chose qui se rapproche de la question qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que la vie de Dieu en moi, ce qu'il a planté, le salut que j'ai acquis en Jésus-Christ et l'espérance que j'ai de la vie éternelle, est-ce que ces choses-là ont un impact sur ma gestion de la terre? Est-ce que si j'ai des intérêts ou enfin j'affectionne les questions écologiques, est-ce que je le fais parce que simplement c'est à la mode? Ou est-ce que je le fais parce que Jésus a transformé ma vie et que je me rends compte que c'est la mission qu'il me donne? C'est un peu la question que je pose aujourd'hui. Quelles sont les motivations pour l'écologie? En conclusion, je vais redire un peu tout ce que j'ai déjà dit. C'est le principe d'une conclusion. L'homme fait partie intégrante de la création. Le Créateur a confié la gestion de ce joyau à la créature, à l'homme. Ce n'est pas une question de choix, c'est un fait. Il n'y a personne d'autre que nous qui le ferons. Il semble que l'on puisse être les mieux placés, puisqu'on est en relation avec le Créateur, pour le faire. Le croyant est renouvelé en permanence par sa relation au Créateur. Et il devrait voir son implication écologique comme une conséquence logique de son salut, une mise en pratique de son salut. C'est une action dynamique à la suite de ce que Jésus a initié en nous. Je prends soin de la terre simplement par respect pour Dieu et pour la bonne gestion de ce qu'il m'a confié. Je prends soin de la terre par respect pour mon prochain. Et je prends soin de la terre parce que mon action d'aujourd'hui peut avoir des conséquences sur l'éternité. Voilà, je vous laisse en conclusion deux psaumes. Ah oui, non, ça c'était un texte que j'avais trouvé aussi dans Colossiens, qui parle aussi de l'univers tout entier. Et nous sommes réconciliés avec lui-même. Enfin, lui-même nous a réconciliés et l'univers tout entier avec. C'est étonnant de lire ce texte et de voir que on pourrait y mettre quelque chose en dessous qui a une coloration écologique. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Et puis en forme de bénédiction pour vous, ces deux textes des psaumes, la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'Éternel est, l'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qu'il a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Chers amis, soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Que Dieu vous bénisse.
Je vous laisse le micro pour la réponse. Voulez-vous vous asseoir ?
Oh, ça va.
Je pense que ça aurait manqué aujourd'hui si ce n'était pas le pasteur Étienne Nikoski qui était venu nous parler. Est-ce qu'il y a des questions ? Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit sur l'asservissement, le temps que vous réfléchissiez. Nous avions entendu Gérard Manant dans une autre réunion aborder ce sujet de... Il avait traduit l'hébreu en mettant « vous travaillerez et vous garderez la terre ». Le rabbin Garaï, mardi, nous a dit « vous servirez et vous garderez ». En chamrou, il n'y a pas de doute, c'est bien gardé. Par contre, l'autre verbe, c'est on peut l'utiliser, sinon travailler, en tout cas servir. Et je rebondis sur ce que nous a dit le pasteur Linkowski à propos des gnostiques. Et donc, il faudrait savoir si nous sommes là pour servir la terre ou si nous l'asservissons à nos plaisirs, à nos intérêts économiques. Voilà, ce verbe servir, il peut effectivement être compris de sens différents. Et on ne s'est pas privé. Question ? C'est original ?
Oui.
Ça va.
Alors d'abord, merci pour ce partage. Moi, je voulais juste revenir sur la voix médiane.
Je crois que c'est...
C'est bon ? Voilà, non, c'est bon.
C'est bon. Je redirai.
Voilà, la voix médiane. Donc, je crois que c'est toujours intéressant en théologie et même pour notre foi d'être sur le milieu, voilà, de ne jamais choisir l'extrême d'un côté ou de l'autre. Et par rapport à l'espérance et en même temps le catastrophisme ambiant qu'on nous donne dans les médias par rapport à l'avenir de la Terre, je crois qu'il y a, là il y a quelque chose aussi pour nous en tant que croyants. Notre foi nous appelle à vivre l'espérance. Et ça c'est important et par rapport au regard croyant spécifique qu'on peut avoir sur les notions d'écologie qui nous sont données actuellement, qui sont plutôt de l'ordre de la catastrophe. Voilà, donc garder cette espérance et en même temps ne pas rester les bras croisés, mais comme toujours pour l'attitude des croyants, hein, c'est qu'il y a aussi une responsabilité. Donc le ciel appartient à l'Éternel, la terre, il l'a donnée aux hommes. Donc effectivement, une responsabilité et en même temps une espérance, c'est-à-dire confier tout ce qui nous dépasse au Créateur.
C'est un point que je n'ai pas du tout abordé, mais quand on, d'après ce que j'en ai compris, il semble qu'il y a eu des périodes dans l'histoire humaine encore relativement proches, hein, de petites glaciations, on parle je crois vers le 15e ou 16e siècle, de refroidissement assez conséquent de la Terre. Voilà, et il y a un certain nombre de milliers d'années, il y avait d'autres animaux sur la Terre, enfin, je crois. Et voilà, il y a des périodes qui passent, il y a des choses qui évoluent, et Dieu, je crois quelque part, j'ai envie de dire, Dieu fait avec. Et malgré nos erreurs, malgré notre mauvaise gestion de la terre, eh bien, il peut aussi y avoir... Dieu rebondit, il compose avec, et on, je crois qu'on peut espérer en ça aussi, le fait que, quelque part, la terre n'est pas non plus comme un savon qui échapperait des mains de Dieu dans sa gestion. On a notre responsabilité, il nous l'a confié, mais je crois que la Terre aussi, elle avancera et rebondira. Enfin, la Terre ne rebondira pas dans l'univers, mais on peut continuer à espérer. Ça ne veut pas dire se désengager.
J'ai bien aimé la comparaison que vous avez faite entre
L'avenir qui nous attend et la résurrection de Jésus-Christ. Qui n'est pas un retour, comme vous l'étiez supposé, qui n'est pas un retour à l'état antérieur. Non. Voilà. Ce que vous disiez, on retrouverait l'état d'Éden du départ. Non. Je pense qu'il y a un mouvement. Voilà. Ceci dit, j'étais aussi un petit peu émue donc par cette comparaison avec la résurrection. Et on retrouve bien le fait que dans les récits d'après la résurrection, toute l'incarnation, c'est des gros mots, hein, mais toute l'incarnation de Dieu est gardée. Quand Jésus prépare à manger pour ses amis, hein, sur le bord du lac, eh bien, quand on sait l'importance que que c'est de manger ensemble, eh bien ça, c'est conservé, et ça, et ce sens-là est conservé. Voilà. Donc effectivement, dans mon expérience, il y a aussi que tout le côté heureux de la vie et convivial restera.
Les yeux.
Pardon ? Oui, allez-y, dis.
On se sert du micro.
Parce que si on n'entend pas la question, on ne comprend pas la réponse.
Moi, je voudrais dire une petite réflexion que vous avez faite qui m'a paru intéressante, c'est de lier, si j'ai bien compris, une certaine déchristianisation ou laïcisation de notre univers avec la montée de l'écologie. Est-ce que j'ai bien compris ?
Je suis pas allé jusque-là, mais c'est intéressant.
Pardon, je prends le micro. Oui, je l'ai pas dit de cette façon-là, mais on peut y arriver assez rapidement.
Parce que je crois que, bon, si on est chrétien, si on adhère pleinement aux valeurs, enfin, à la foi chrétienne, on est naturellement écologiste.
Oui. On devrait. On devrait.
On devrait. La question se pose même pas.
J'aurais bien aimé aborder, en fait, je ne l'ai pas fait sous cet angle. Je crois que pendant de nombreuses années... Enfin, je suis toujours jaloux, je vais le dire comme ça. Je suis toujours jaloux des gens qui initient, qui ont des nouvelles idées. Et je me dis... Pourquoi c'est pas moi qui l'ai eu ? Et j'apprécie particulièrement les moments où des chrétiens, quelle que soit leur appellation, ont pu être des initiateurs d'idées géniales. J'ai envie de dire les premiers hôpitaux, ça date, ou les premiers hospices au Moyen-Âge, ça peut être l'esclavage au 19e, peut-être un peu avant, là, je sais pas trop. Bon, c'est vaste, hein, c'est long l'esclavage. J'ai envie de dire Coluche. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un chrétien qui lance un truc comme ça, là, les machins des cœurs. Ouais, ouais. Et je me dis, pourquoi c'est pas un chrétien qui a sensibilisé le monde à la question écologique ? Alors, ça se trouve, il l'était. Les premiers, là, les ceux qui ont attisé, qui ont mis du feu, du charbon dans la machine. Et je me dis, ça, c'est dommage, ça aurait dû être nous qui aurions dû être les initiateurs de la chose, parce que on était directement en contact avec le créateur. Alors je vous fais mon deuxième exposé, hein, vous m'en inviter l'année prochaine, je sais pas, mais je réfléchissais à aborder les choses sous cet angle là ce que vous dites, ça fait écho en moi sur cette chose là en quoi le chrétien, qu'est-ce qui le motive à cette préservation de la terre, à cet intérêt écologique? L'est-il ou ne l'est-il pas, ou l'est-il que?
Moi, j'ai le sentiment que l'inspiration, elle vient dans l'homme par l'esprit. Peu importe qu'il soit chrétien, de l'église machin, et peu importe qu'il trouve. Pourvu qu'on réfléchisse ensemble et qu'on se laisse transpercer et qu'on trouve des solutions réfléchies qui aboutissent à du moyen long terme, pas seulement l'intérêt collectif immédiat.
C'est une information. C'est pas une question, c'est une information.
Ouais. C'est une information, oui. On peut rentrer dans un débat, hein. Après, je pense que ce qui est aussi important, dans quelle que soit la question écologique ou toute autre question, c'est, vous savez, le malin, on est malin. Moi, je crois qu'il y a un adversaire. Hein. Et qu'il utilise tous les bons moyens pour détourner de Dieu. Et qu'il peut y avoir quelque part des dieux, on peut en inventer plein, on les crée à notre image, hein, les façonner à notre image, et que par il y a des philosophies, des religions, hein, qui mettent la terre à l'honneur, Gaïa. Et je crains en fait que l'on puisse s'éloigner du Dieu créateur et sauveur en s'adonnant à d'autres constructions idolâtres. Si vous voyez ce que je veux
dire. Malheureusement, pas très bien.
Je voulais simplement dire que on peut s'engager, et en particulier à travers des associations, et je crois que justement, on est quelquefois exaspéré de tous les documents qui nous débarquent dans la boîte aux lettres ou par ailleurs avec les différents médias, mais je crois que ça vaut la peine de regarder ce qui se passe, de ce qui est proposé, et de voir en quoi on peut soi-même et des amis se rassembler ou en tout cas participer à des gens qui ont eu l'initiative, comme vous disiez.
Tout à fait.
Soyons présents au monde, soyons actifs là où on peut, à notre échelle, à notre niveau. C'est important. J'aime toujours l'image, vous savez, il y a toujours un flocon de neige qui fait casser la branche. C'est bizarre, hein? Vous vous rendez compte? Ben, peut-être si on peut être au flocon de neige.
Autre question? J'en profite pour vous dire que le pasteur Bernard Rohrdorff, qui va venir faire le culte de clôture dimanche, s'est beaucoup intéressé à ces questions et il a écrit un article et c'est assez curieux, mais lui aussi s'était inspiré de Romains, de Romains 8, et il en avait tiré aussi la conclusion qu'il y a une indication de solidarité. Donc, c'était original, il avait dit la création est associée à la libération de l'homme, donc on est bien dans le salut. Et l'homme est, je résume, hein, l'homme est responsable de la souffrance de la création. Et comme maintenant, comme croyant, il a reçu l'esprit, donc il l'est encore plus de son attente, écrit-il. Au verset 21, les expressions esclavage de la corruption et liberté de la gloire sont parallèles. Toutes deux se réfèrent à la communauté de destin entre la création et l'homme. Et point, la création est esclave parce que l'homme se dresse contre sa condition. Il veut être davantage qu'une créature. La création ne sera libérée que quand l'homme s'acceptera comme créature et se reconnaîtra dans son existence filiale. Et c'est après qu'il débouche sur la notion de solidarité. Donc ça va un petit peu dans le sens de ce que disait Marie-Claire. Comment on peut agir? Eh bien, si on est beaucoup de flocons, on risque de pouvoir changer la forme de la branche. Question? Lucien.
Une remarque avant de commencer. Coluche était peut-être un croyant qui s'ignorait. Hein.
Pardon?
Bon, d'accord.
J'ai pas entendu
votre remarque. Par rapport à Coluche.
Ah, peut-être?
Oui. Non, mais ce que je voulais dire, il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont chrétiens, croyants ou autres, qui s'intéressent au cosmos, et qui l'analysent, qui l'expliquent. Et la Terre est une épingle, une tête d'épingle dans ce cosmos, est d'accord? Et autour de cette Terre, il y a de gros blocs dont on connaît la trajectoire. Et certains risqueraient de nous détruire. Et il y a des gens aussi qui essayent, dès maintenant, en suivant les trajectoires de ces blocs qui détruiraient la Terre, oui, enfin, je dis des blocs, je ne veux pas dire de gros mots, hein, et qui essayent, dès maintenant, de construire des engins qui iraient les détruire avec des bombes atomiques ou autres avant qu'ils sautent. Alors, est-ce que c'est une forme d'écologie, ça?
Non, c'est un film américain. Non, j'en sais rien. Non, je ne peux pas répondre, je ne sais pas.
Non, c'est
tout
à
fait sérieux. Oui. Non, mais je sais pas, j'ai aucune compétence pour répondre. Ouais.
Mais c'est la création soumise au pouvoir de la fragilité.
Ouais.
On est très vulnérable, très très vulnérable.
Mais je pense que la prédication que vous pourrez écouter dimanche sera très intéressante sur ce lien entre notre responsabilité dans le fait qu'elle souffre aujourd'hui et l'espérance qui est liée aussi à la nôtre.
Je veux dire qu'on ne l'avait jamais lu comme ça. Grâce à vous, on relit Romain d'une manière tout à fait différente. Comme quoi, c'est jamais fini cette lecture. D'autres questions? Mais écoutez, on va passer plus vite au dessert. On va remercier d'abord très sincèrement et très profondément notre interlocuteur d'aujourd'hui. Effectivement, c'est tout à fait quelque chose de nouveau et chaque jour a apporté son lot de nouveautés dans la continuité. Merci. En passant, je vous donne des nouvelles de notre amie Irmela qui est en maison de repos et qui va pas trop mal. Mais voilà, si vous pouvez prier pour elle, si vous pouvez lui faire une petite visite à la Marteret ou lui téléphoner, ben voilà, n'hésitez pas. La semaine continue ce soir avec la conférence du pasteur Jean-Pierre Stamberger et de Magali Girard, pasteur à Chambéry, surtout sur le même sujet, où va le monde quand écologie et théologie se rencontrent. Donc c'est à 20h, on va dans le temple. Demain, c'est notre pasteur Charlotte Gérard qui interviendra pour diriger cette étude biblique. Et puis samedi après-midi, les conteuses du diocèse viendront à 17h30 animer des contes bibliques qu'elles ont préparés spécialement pour rentrer dans le sujet de cette semaine. On envisage d'ailleurs, je ne sais pas, on peut vous poser la question, est-ce que vous pensez que ça serait bien de le faire ici, plutôt que dans le temple en bas? Je ne sais pas quelle quantité d'assistance il y aura. Ça peut être plus... Elle souhaite ne pas intervenir avec un micro, et donc je m'étais dit qu'ici, ça serait peut-être pas mal. On va réfléchir à ça. Mais ça sera dans l'enceinte, dans les locaux du temple, voilà. Et puis dimanche, culte de clôture, donc avec le pasteur Bernard Vandorf, que vous connaissez, et qui viendra diriger ce culte et nous faire une prédication sur ce sujet. Voilà, donc ça sera enregistré, puisque notre intervenant d'aujourd'hui l'accepte, ça sera mis sur le site le 20 avril, et les intervenants seront... Je vous enverrai un mail pour vous dire que c'est quand ça sera en ligne que vous puissiez voir si ça correspond bien forcément. Et encore merci à nos cuisinières qui nous ont fait aujourd'hui un buffet 40 différents et 15 jours dans le monde.